Bonjour et bienvenue dans Certains les Machos, l'émission qui se roule en boule après les films à la sortie. Salut Yassa.
Salut Thomas.
C'est toi qui remplace Thierry cette semaine ?
Si tu le veux bien.
Non, Thierry n'est pas parti, il y a eu des soucis de planning, mais Thierry est là, Thierry nous rejoint pour les films, ne vous inquiétez pas, il est de retour. C'est juste que
vous jouez un mauvais tour.
Non, ça c'est Pokémon, c'est une autre licence que Sonic. On en a parlé dans un autre épisode. Le lien en description, bien sûr. Cette semaine, on parlera du hérisson bleu. Vite fait, comme Sonic. D'ailleurs, on va aller très très vite. Voilà, on va pas s'attarder.
Je ne cautionne pas cette vanne, mais je rigole quand même.
Désolé. Mais ce n'est pas tout. On parlera de trucs quand même mieux avant. On parlera de Queen and Slim sur les Bonnie and Clyde Black. Et on parlera également de la très 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 bonne surprise de la semaine, Un divan à Tunis. Comme le petit hérisson, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Cop killers, cop killers. It was self-defense. We're in the Black Bonnie and Clyde. In the city breaking and everybody shaking up mistakes. How you gonna outrun the police?
We don't have to outrun them. We just have to make sure they don't know where we are.
This here's Kentucky, my friend.
There's a war going on out there. You welcome this into our home?
Is this y'all?
Y'all really gave us something to believe in. We needed that for real.
Let them go!
If y'all remove Black Panthers, power to the people.
All we can do is go forward. There is nothing back there for us. Let's just keep going.
Queen and Slim de Melissa Matsoukas, film iconique, ou même iconisant, sur un couple afro-américain. Leur destin va basculer après un contrôle de routine, un contrôle de flic qui tourne mal. Ils vont prendre la fuite et vont devenir des icônes dans le pays. Les Bonnie and Clyde noirs, comme dit le film et comme dit la bande-annonce. Un film sur l'iconisation, je le disais, parce que Melissa Matsoukas a réalisé énormément de clips de Beyoncé, fait énormément de clips en général et beaucoup de Beyoncé, avec des acteurs dont on parlera également, Jodie Turner-Smith as Queen et Daniel Kaluuya en Slim. Je suis avec une équipe dehors la loi, on peut le dire comme ça. Toujours évidemment le Thierry.
Coucou.
Yassa est là, salut Yassa.
Salut Thomas.
Hera, salut, comment ça va ?
Super, je suis contente d'être revenue en même temps qu'il y a ça.
Et nous avons une invitée. C'est une invitée qui aime à la fois le cinoche et la musique et les BO. Et ça tombe bien pour ce film, dont il faut dire un mot sur la BO aussi.
J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais me dire qu'elle était noire et que tu allais lui demander de lui faire l'accent pendant tout l'épisode.
Nous sommes avec Blanche Gardin.
Non, non, pas l'accent du sud, Blanche Gardin. Alors bonjour, alors bon, le film est bien.
C'est bon, je vous reporte à l'épisode précédent.
Et... ce que
hein, voilà. Je vous reporte à l'épisode précédent. Donc je disais... une podcastrice, bon bref, co-créatrice et co-animatrice du podcast de 4 à 7, Gab. Salut Gab.
Salut.
On avait le choix sur les films et donc tu as choisi ce film-là parmi les derniers. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce film ?
Oula, alors j'avais vu le début de la bande-annonce et je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir ce film. Et évidemment, je n'ai pas noté le nom du film. Et quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, j'espère que c'est celui-là. Et du coup, bah voilà, c'est pour ça que je suis là.
C'était celui-là ?
Oui, c'était celui-là. J'ai pas compris, pas de petite...
Rattrape-toi comme tu peux, ouais.
On a essayé de la piéger sur les horaires de l'amener voir Sonic, mais c'était pas la même affiche, ça a pas marché. Bon. Queen and Slim, beaucoup de choses à dire finalement. Donc sur ces Bonnie and Clyde, c'est un thème qui va revenir je pense, puisque c'est quand même une histoire de fuite. On a deux icônes black justement, et d'ailleurs ce mot sur l'iconisation, je l'ai déjà dit trois fois en 4 minutes, donc on va peut-être se calmer. Qu'est-ce que vous retenez de ce film en sortant ? Notre Samuel Jackson à nous ?
Motherfucker. Qu'est-ce que je retiens en sortant? Moi, c'est un genre que j'aime énormément, le road trip de cavale. Bah, du coup, après, les films iconiques restent les mêmes. Hein, comme tu l'as dit, il y a Bonnie and Clyde de Arthur Penn, il y a Thelma et Louise de Ridley Scott. Et au final, c'est ceux que je retiens surtout. Et c'est assez marrant parce que ces films ont à peu près une trentaine d'années d'écart. Et une trentaine d'années d'écart quasiment à l'année près. Avec celui-ci, donc c'est cool parce que ben, pour moi qui ai beaucoup aimé, on a un film iconique qui traite du même sujet tous les 30 ans, je suis assez ravi. Moi ce que j'en ai retenu c'est que c'est un film très très fort en fait, qui du coup traite de beaucoup de sujets qui sont à la fois d'actualité et à la fois qui résonnent beaucoup trop dans l'histoire américaine, qui me dérange énormément. Je sais qu'on a souvent ce débat et moi je dis que malheureusement tant que les statistiques ne changent pas, ce genre de film est assez essentiel et c'est une tristesse de dire qu'on est encore obligé d'en parler là où beaucoup de choses étaient censées les faire changer. Mais c'est un film très fort quoi, c'est un film de tension, c'est un film d'évasion, c'est long mais justifié pour moi, on en On en reviendra là, je résume pour l'instant, mais enfin, en tout cas, moi j'en ai retenu une impression très forte. Gab ?
Alors moi je trouve que le film a vachement réussi au niveau de la tension. Et du coup, le fait que ça dure 2 heures, ça se ressent, mais c'est pas gênant parce que t'es vraiment tout le temps en train de te dire comment ça va se finir. Et voilà, et il est vachement réussi à ce niveau-là. Et la BO est très cool aussi.
C'est très afro-américain, je crois que c'est des titres du label Motown, parce qu'on le voit dans le...
Motown, parce que t'as du Herbie Hancock, t'as tous ces gars-là qui faisaient du jazz pour la Motown à l'époque. Après, la Motown est déjà un label qui n'existe quasiment plus, donc est-ce que tout vient de la Motown, je suis pas si certain. Mais en tout cas, c'est que des artistes à influence afro-américaine, que ce soit musicalement, parce qu'on a beaucoup de soul, ou dans les thèmes, dans les passages rappés plus modernes, ça parle des mêmes thématiques, quoi.
Il y a ça.
Non mais je pense que je vais pas être très loquace là, parce qu'il faut encore que je le digère. Je me suis sentie investie dès le début, c'est-à-dire que les personnages sont attachants. Je m'y suis attachée dès le départ et j'ai pas ressenti de comportement qui glisserait vers le pathos, quelle que soit la situation, c'est-à-dire que il n'y a pas non plus aussi cette folie qui caractérise un petit peu les Cavales, que ce soit Bonnie and Clyde ou, comme tu le disais, Thelma et Louise. J'ai senti justement qu'il y avait quelque chose, c'était une Cavale qui leur a justement permis de goûter à des choses qu'ils s'interdisaient. Queen, elle est avocate. Slim, il est caissier en supermarché ou un truc comme ça. Et voilà, ils sont embrigadés dans un quotidien qui justement les oppresse et les laisse pas s'exprimer. Ce qui fait que justement cette Cavale, ils fuient le crime qu'ils ont commis, mais en même temps ils fuient leur quotidien et accèdent à une réalité qui fait qu'en fait ils sont prêts à mourir.
Voilà.
Sinon j'ai beaucoup aimé la musique aussi. J'ai kiffé la musique vraiment. Le petit moment de blues dans le bar, je crois que ça a été mon moment préféré parce que voilà, ça m'a donné des petits frissons. C'était un moment de calme, et alors de vrai calme et de tendresse à ce moment-là.
Queen and Slim présentent des personnages qui ont des points de vue différents, des idéologies différentes. Eh bien, chez nous aussi, il y a des points de vue différents. Tout le monde n'a pas apprécié le film à fond. N'est-ce pas, Hera ?
Ouais, j'ai un peu moins été embarquée que vous. J'ai pas trouvé ça mauvais du tout. Hein. Je suis sortie quand même en me disant « Ok, fair enough ». Mais il y a plein de choses qui m'ont dérangée dans l'attitude, dans le manque de transition des personnages, le manque de profondeur. Pour moi, c'est vraiment un film de surface. C'est le genre de film qu'on obtient quand on a une idée et qu'on a juste cette idée et qu'après, on va l'étirer pour essayer d'en faire quelque chose. Donc là, c'est l'idée de faire un film contestataire sur la manière dont les Afro-Américains sont traités en Amérique et particulièrement au niveau des bavures policières qui font que c'est vrai que certains flics ont un petit peu la gâchette facile sur les Afro-Américains. Et c'est vrai, je suis d'accord avec Thierry dans le fait que oui, il faut continuer d'en parler et que c'est important de rappeler que ça existe. Après, j'ai un peu l'impression que la réelle, c'était « je veux parler de ça et je vais trouver un moyen fort de le faire, sauf que je sens pas du tout le processus créatif pendant le reste du film. Je vois l'idée, mais je sens pas la force de création qu'il y a derrière. Je sens pas qu'elle a eu envie de raconter l'histoire de deux persos. Je sens pas qu'elle a eu envie de raconter comment est-ce que ça se passait pour eux, comment est-ce qu'ils ressentaient les choses et comment ils le vivaient. Et j'ai trouvé que ça manquait de profondeur dans l'émotion. C'est-à-dire que tout le début, ils pourraient être complètement stressés par ce qui vient de se passer, parce que quand même, ils ont tué quelqu'un. Enfin, le mec a tué quelqu'un. T'es pas censé te sentir super bien et t'as l'impression que ça passe parce qu'il faut servir un scénar. Et j'ai eu l'impression que c'était ça à chaque fois. C'est-à-dire que chaque étape les emmenait à quelque chose de plus juste pour avoir une progression dans le scénario, mais pas pour parler d'eux. Pas pour, en fait, parler de l'histoire. Je sais, mais tant pis.
Faut forcer la progression du scénario, mais non, comme les flics qui ne surveillent qu'un seul côté de la maison, par exemple. Franchement...
Ouais, non, après il y a plein de petits trucs à dire, mais ça j'accepte parce qu'à chaque fois je me dis bon ok, c'est, tu vois, faut que ça avance, donc les Deus Ex Machina permanents, c'est puisque c'est que ça, tu dis bon ok, en plus il y a un rapport quand même à Dieu qui est très fort et très présent dans le film quand même, donc je suis là ok, j'accepte les Deus Ex Machina comme manière de faire progresser un scénar. Ce qui m'embête, c'est quand je vois pas la progression des personnages et qu'on essaye de me l'installer par des espèces de clés visuelles, comme tiens, elle change de fringue, elle se rase les cheveux, donc tu te dis ah, transition, sauf que elle a pas du tout changé au niveau du caractère. Elle, il se passe rien, c'est après que tu sens un progrès et tu sens, elle reste sur son campement pendant tout le long, le personnage de Queen, c'est à dire que tu vois l'icône de la femme forte, t'as l'impression qu'elle a buté un gars 50 fois dans sa vie et qu'elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Alors ok, elle a pas forcément un passif facile, ok, elle est avocate, mais le le background n'est pas spécialement là. Et c'est pareil pour les deux persos. J'ai l'impression de voir quasiment les mêmes personnes tout le long. À part le fait qu'elles se mettent, et encore, donc a dit le bénédicité à un moment à table alors qu'elle a clamé qu'elle ne croyait pas en Dieu. À part cette espèce de transition où elle commence à se mettre dans cette culture, se dire « Ok, je retrouve quand même la foi et j'ai de la gratitude envers des choses qui m'arrivent dans ma vie. » J'ai vu zéro évolution et même pas un espèce de combat vers la liberté.
Non, si le mec il arrête de faire du bruit à table, oh. Une évolution de personnage.
C'est marrant parce qu'on combat énormément, je trouve, généralement le truc où on a l'impression que les messages passent au gros sabot et qu'on n'a pas besoin de les expliquer. Là, le problème, c'est que tout ce que tu ne ressens pas, je l'ai totalement ressenti et on n'avait pas besoin de me le dire en fait.
En fait, le gros sabot, si. Alors, le film commence, il y a une discussion et deuxième minute, bim, la peine de mort, c'est pas bien.
Est-ce que t'as envie d'être... L'État ne devrait pas décider de qui vit ou qui meurt.
Donc voilà, donc c'est pendant le date Tinder, donc elle explique qu'un de ses clients va être exécuté. Et donc on a, effectivement, la peine de mort, ça devrait pas exister, voilà. Donc dès minute 2, tu sais que la finesse, c'est bon, faut pas y penser, quoi.
Et pourtant, j'ai trouvé ça d'une finesse absolue. En fait, moi, à part à 2-3 moments, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, c'était le côté. Et du coup, je vais t'expliquer ce que moi je cherche dans ce genre de film. Je pense que c'est ce qui pourrait expliquer mon point de vue. Ce que j'ai bien apprécié aussi, c'était le côté justement des personnages qui. Même si elle a à la limite un background parce qu'elle connaît le milieu judiciaire, elle sait comment ça peut se passer dans ce genre de cas et elle sait pertinemment qu'il n'y a pas d'issue pour eux, quelles que soient les circonstances, parce qu'elle ne croit pas non plus au système qu'elle défend puisqu'elle est avocate. Mais lui est naïf et moi j'avais peur qu'on s'attaque un peu aux choix qu'ils peuvent faire. Moi je les trouve assez logiques, à part quand il tend une arme à un gars qui lui dit « Tiens, est-ce que je peux tenir ton arme ?» Le reste du temps, le fait qu'il appelle sa famille, le fait de plein de choses, sont des situations désespérées et généralement, c'est vrai que, bon alors là ce qui est très bien pour le coup, on n'a pas ce discours-là, c'est que les gens ont souvent tendance à implanter leur propre morale dans ce qu'ils voient. Alors qu'il faut comprendre que tous les gens sont différents et surtout penser qu'eux ils feraient pas comme ça, alors qu'en réalité on n'a jamais vécu cette situation là, on sait absolument pas dans quel état on serait, donc du coup le détachement du personnage est justifié pour lui, pourquoi pas, si on nous le propose, moi ça m'a semblé logique, voilà, même si ça me semblait pas logique mais que le film me dit que ça l'est et qu'il le pousse pas trop, je me dis pourquoi pas. En fait le film de Cavale pour moi ça dénote une errance. À chaque fois, ce que j'apprécie dans ce genre de film, c'est qu'en fait, ce qui compte, c'est que le film ne raconte pas grand-chose. Le film raconte des étapes que les personnages vont passer. Ils vont aller d'un point A à un point B. Et surtout, ce qui doit se passer à l'écran ne doit pas forcément faire évoluer la trame, en fait. Ils doivent aller vers un chemin inéluctable. Et ce qui compte, c'est ce qui se passe dans leur tête et ce qui se passe entre eux. Et là-dessus, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses, en fait. Autant dans leur relation qui n'est pas poussée, elle arrive tard et elle arrive suite à des événements forts et elle arrive pas juste en mode on est dans la galère, vas-y, on baise. Ils ont une relation qui s'affine avec le temps, qui se montre par des moments forts, en fait. Et je trouve que les moments forts sont très, très appuyés. Et donc, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est le fait qu'ils rencontrent des personnages. Et pour moi, le côté des Deus Ex Machina, c'est plus les personnages extérieurs sont ceux qui font des choix moraux, en fait, parce que eux n'ont pas de choix moral à faire, ils sont dans la galère de toute façon. Donc, ils doivent soit s'arrêter là, soit continuer pour survivre. Donc, c'est les autres personnages qu'ils vont croiser qui doivent faire des choix moraux et dicter leurs pensées, pour moi. Eux ne peuvent plus penser, ils sont totalement embrouillés, ils n'ont pas de recul, en fait. Voilà. Donc, en fait, on ne peut pas les voir avoir des discours qui évoluent, mais je trouve que dans leur attitude, en tout cas, et pas physiquement, on ne peut pas compter sera les œufs et qui ressemblent à Grace Jones. Voilà, on y vient. Enfin, à part dans ce genre de moment... Je trouve que justement il y a énormément d'évolution, mais tout est passé sous silence. C'est passé par il y a une scène de sexe que je trouve magnifique.
Un montage alterné
avec un moment où on te dit clairement je m'offre à la vie et à la mort, quoi. Bah, et ça c'est super beau, je trouve. Mais
moi je l'ai pas vu forcément comme ça. Enfin, on peut y voir beaucoup de choses parce que c'est le principe d'un montage alterné, mais c'est aussi une scène assez forte et assez chaude aussi parce que alors est-ce qu'on la raconte cette scène là?
Non,
parce qu'il y a une scène d'émeute derrière et il y a être l'acte le plus violent du film qui se produit pendant cette scène-là. Et moi, je l'ai vu comme le fait qu'ils aient engendré cette situation. Ben, ils sont en train de faire l'amour et il y a un gamin qui fait un truc pendant une manif. Donc moi, j'ai vu ça comme c'est leur gamin. C'est eux qui ont donné naissance à cette situation parce que cette manif, elle est pour eux. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu.
Moi, j'ai trouvé que ça a souligné tout l'aspect dualité du film. Le film est énormément basé sur des notions de dualité permanente. Donc là, ce serait la dualité entre la vie et la mort. Sinon, au début du film, elle est habillée en blanc, lui, il est habillé en noir. Tu vois, t'as tout un truc.
Tous tes gros sabots dans les symboles, c'est, dans l'iconisation, c'est très appuyé. Le coup du cheval.
En quoi c'est gros sabots?
Le coup du cheval, il est gros quand même.
Non, moi je sais pas, mais on s'en fout. Mais
c'est Cyril assis.
Mais le film est obligé de faire des moments d'évasion, c'est son thème. Alors,
non, c'est pas un moment d'évasion là.
C'est pas un moment d'évasion.
Quand il chevauche un cheval blanc, c'est lourd de symbolique.
C'est un moment qui te symbolise la liberté et la manière de l'apprendre. Donc oui, le film est obligé de faire ça, c'est son thème.
Non, c'est un truc sur la lutte entre les blancs et les noirs. Et il chevauche un cheval blanc. Non, Thierry. Oui, Gab, apaisons un peu le débat.
Maintenant, ça va être encore. Enfin, je me remets dans ce que Hera a dit, mais aussi, du coup, cette scène-là, justement, elle m'a beaucoup marquée pour l'opposition. Et je pense que aussi, c'est une opposition entre l'amour et la haine, du coup, tout simplement. Et en fait, le film joue beaucoup sur l'opposition parce qu'au début, ils sont déjà dans la voiture dès le début, avant qu'ils se fassent arrêter, avant qu'il y ait la bavure. Et on voit qu'il y a des plans où vraiment ils sont enfermés dans la voiture et ils sont séparés entre eux. Et après, la voiture, ça va être un peu un endroit où ils vont pouvoir retrouver leur liberté parce qu'ils vont dans des grands paysages et tout. Et aussi, les plans vont les mettre. Enfin, il va y avoir des plans beaucoup plus larges où tu vas les voir qui sont à deux. Et aussi au moment où. C'est pas vraiment le personnage de Quinn parce que c'est pas vraiment leur nom.
Alors, ils sont nommés qu'à la fin, on ne donne leur nom qu'à la fin. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont nommés comme ça? C'est parce que ce sont des surnoms qu'on leur donne, Quinn et Slim, mais ils n'ont pas vraiment de nom. Quinn est nommé comme ça parce que pour l'auteur, l'autrice, toutes les femmes sont des Quinn, donc c'est normal. Et Slim, ou Slime, je ne sais pas, Slim, c'est un nom d'argot par lequel se dénomment les Blacks, semblerait-il. Voilà. Mais oui, non, ils sont jamais nommés comme ça. Donc c'est juste parce qu'il faut nommer les personnages, mais voilà.
Et ouais, et du coup, il y a une scène où Quinn, en fait, elle sort de la voiture par la fenêtre en roulant et elle tend son bras vers la liberté et tout. Et ça, c'est une image vachement forte par rapport au début où il y avait ce genre d'opposition. Et il y a aussi une opposition dans la musique. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de la tension et il y a une musique, je sais pas si elle a été utilisée plusieurs fois ou si c'est différente. Musique, mais il y a la musique de tension qui était agrémentée de toutes petites notes hyper douces, et du coup je trouve ce côté intéressant toujours dans la dualité.
Autant je reproche son côté gros sabot au film, autant je reconnais qu'il y a une très belle esthétique. C'est très recherché, c'est un film qui va relancer les survêtements en velours et les robes tigres.
À un moment, je ne vais pas dire qu'il y a une scène d'enterrement et on voit l'oncle.
C'est un pimp.
C'est un pimp, et alors putain, le mec il est habillé en pimp d'enterrement, quoi, je sais.
Un proxénète, un Mac.
Ah oui, d'accord.
Mais c'est sympa parce que tu as l'esthétique est belle, mais ça pue pas le clip en fait. C'est ce que je disais, c'est que la nana fait ça, elle aurait pu tomber dans le clip facile, et pour le coup, elle sait esthétiser son film sans forcément que t'aies l'impression de mater justement MTV le matin, quoi.
Mais parfois, quand même, un peu, ouais. Alors, il y a juste deux trucs sur la technique. Alors, je sais pas si c'est voulu, si c'est notre lentille, le cinoche où on est, qui a l'écran un peu sombre ou pas. Il y a des moments où le chef-op qui a foiré aussi, hein, ça peut arriver. Il y a des moments. Quand c'est un peu sombre, on ne distingue pas le visage des acteurs. Et parfois même, les figurants sont plus nets que les acteurs. Alors je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'elle veut faire de l'universalité et donc ce sont des figures et donc pas forcément, on n'est pas obligé de les reconnaître, ou bien c'est juste que ça a été que la lumière est foireuse, hein, ou pas. Il y a ça.
Oui. ah, c'est bon.
Mais je t'ai coupé, mince. Bon, ben à demain.
Salut, au revoir. Non, je voulais juste revenir sur le montage alterné qu'on avait entre la scène de sexe et l'émeute. Et en fait, j'ai pensé en même temps les deux choses que toi, Thomas, t'as pensé en disant que c'est eux qui avaient un petit peu initié la manifestation. Et en même temps, je pense aussi que ça nous montre un petit peu la dualité du monde, qu'on vit dans un monde où on peut faire l'amour et en même temps faire la guerre. Et je pense que la scène d'émeute a commencé justement à cause de ce qui s'est passé, de l'acte qui a été commis au début du film. Mais justement, avec le dénouement de la scène de l'émeute, on montre que le premier est un accident, le deuxième est une décision. Tu vois ? Vas-y, vas-y.
Alors, on parlait de la dualité des idéologies et des oppositions entre les personnages. Ils sont écrits d'après Malcolm X et Martin Luther King, qui avaient deux visions opposées.
C'était un film X-Men ?
Ah ouais, c'est pour ça que t'as pas vu les gros sabots, en fait. Ça n'encourage pas la finesse, du coup.
Du coup, ça vient, ce que tu viens de dire vient complètement soutenir l'ambivalence de cette scène, quoi. C'est un petit peu le moment pivot, parce qu'il y a un rapprochement entre les personnages principaux. Et en même temps, il y a une grosse cassure qui se fait dans la société à ce moment-là. C'est-à-dire que vraiment, de ces actes-là vont découler plein d'autres choses, ce qui va nous amener au dénouement aussi du film, quoi.
Voilà. Et puis le film n'est pas non plus complètement manichéen, même s'il est quand même orienté, mais il n'est quand même pas complètement manichéen, dans la mesure où il y a... Parmi les personnages blacks qu'ils vont rencontrer, il y en a qui sont pas complètement d'accord avec ce qu'ils font, qui vont quand même les aider, mais ils sont quand même... Oui, ils auraient pu les dénoncer aussi, il y a une prime, donc...
Non, mais oui, c'est très bien qu'il y ait justement que ça prenne un peu d'équilibre Non, mais dans une certaine mesure, il y a de l'équilibre quand même. C'est un peu, je vais faire un parallèle qui va être très chelou, mais c'est un peu ce que j'ai bien aimé dans Les Misérables. Moi qui n'ai pas spécialement, qui n'ai pas aimé le film. Il y a un côté, on rééquilibre les choses et on voit un peu le côté blanc et noir, mais des deux côtés.
Non, moi je trouve qu'il est quand même plus orienté que Les Misérables.
Oui, carrément. Non, oui, mais au moins, il y a quand même cette force de faire de l'équilibre, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça aurait été encore, évidemment, il y a toujours une marge de progression là-dessus. On n'a toujours pas entendu qu'en fait, tant que tu te bats et qu'il y a une défense, bah, y aura toujours des gens qui se battent, donc il y aura toujours un combat. Donc en fait, jamais tu t'atteindras un niveau de paix. Mais au moins, le fait qu'il y a des... Puis même le fait, dans la scène, on parlait de la scène des meutes, le fait qu'il y a aussi des blancs dans cette scène. Voilà, il y a quand même un travail là-dessus qui est appréciable, ce qui n'en fait pas non plus, comme tu disais, un film complètement manichéen, complètement pro ou anti.
Il y a un point sur lequel il faut quand même qu'on vienne. Tu parlais du coup de la photographie qui des fois cachait les visages. C'est dommage parce qu'en plus tout se joue dans le regard des personnages et du coup on peut aussi parler de ce duo qui est hallucinant entre
J.D. Turner Smith.
J.D. Turner Smith et Daniel Kaluuya qui sont tous les deux, je trouve, incroyables dans leur rôle et je suis très content que ce soit ces deux personnes qui aient été choisies. Bon, je connais que Daniel Kaluuya que j'apprécie énormément et qui là me confirme qu'il a un talent fou et en même temps ces deux acteurs sont à suivre et c'est génial quoi. Voilà, on n'a pas fait de mots sur les acteurs, bon c'était juste histoire de...
Moi, j'ai juste une petite réserve sur le film. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de répétitions, notamment dans les dialogues, parce qu'il y a des moments où, en fait, alors je sais pas pourquoi, mais il y a des moments où ils parlent, enfin leurs bouches sont fermées et ils parlent quand même. Il y a un moment où ça va, ça passe, mais il y a un moment où vraiment c'est genre sur une phrase en plein milieu d'un dialogue, donc j'ai trouvé ça hyper bizarre. Et à la fin, au générique, ils repassent des phrases qu'ils ont dit dans le film.
Oui, pour iconiser encore une fois.
Ouais, et du coup, c'est ça qui m'a un peu dérangé.
Mais parce que c'est sur la construction d'une icône, parce qu'à la fin on aura des affiches à partir d'une photo qui est sur l'affiche. C'est ça, c'est en fait sans ça, je pense que c'est surtout c'est ce sujet que je retiens du film, c'est l'iconisation de deux personnages, quoi qu'ils aient fait avant, même si pour eux c'est involontaire, mais c'est ce qui se passe autour qui va faire qu'ils vont devenir des icônes. Plus la réelle qui force un peu le trait et qui force un peu quoi, le scénar qui force ça.
Bah ouais, c'est un peu ce que je reproche au truc, c'est qu'en fait, tu parlais très justement Thierry de Thelma et Louise et de Bonnie and Clyde, c'est un film qui s'iconise lui-même et qui s'est iconisé après sa sortie et on n'iconise pas à l'intérieur. Alors que là, c'est que du « Hey, iconisez-moi, iconisez-moi, iconisez-moi ». Et c'est un peu, je trouve ça un peu limite parce que ça aurait pu simplement aussi, bah tu dresses le portrait de deux personnages et de leur histoire, ce qui pour moi c'est ça que j'attends d'un film, c'est parle-moi de tes persos et parle-moi de leur histoire et parle-moi de va en profondeur dans tout ce qu'ils ont vécu, parce que c'est ça, c'est là-dedans que je trouve de la beauté, mais c'est évidemment ce que je capte moi au ciné. Et après, à la sortie de ça, qu'est-ce que le public en fait? Alors que là, c'est limite une indication de voilà, on t'enfonce la porte en te disant tiens, iconise-moi, iconise ces personnes-là et aime ce que je fais parce que c'est important. Je ne remets pas en question le combat, mais laisse le public faire ce travail d'iconisation-là.
C'est vrai que je t'avoue que je le vois plus comme une manière aussi de rappeler le fait qu'on a peu à peu abandonné les icônes, parce que ce genre de film normalement ne devrait pas avoir lieu, dans le sens où on a déjà eu des films sur ce sujet qui auraient déjà dû, qui ont un statut iconique et qui auraient du coup déjà dû faire ce travail. J'y vois plus une affiliation avec Thelma et Louise, dans le sens où Bonnie and Clyde ce sont deux criminels qui fuient, là où dans Thelma et Louise pareil ce sont deux nanas qui sont victimes du sort, qui ont un malencontreux accident et qui sont obligées de fuir et puis qui vont s'éprendre de liberté, comme là. Pour le coup, la manière après de les iconiser, c'est une façon de dire justement faites-en un symbole et arrêtez vos conneries. Ben, je l'ai vu un petit peu comme ça, une façon de dire maintenant voilà, c'est établi, stop.
Ouais, alors moi je trouve que ben, non, mais c'est justement, dans ce cas-là, c'est un aveu d'échec quoi.
C'est un aveu d'échec en même temps. L'histoire des États-Unis, surtout sur ce sujet-là, est un échec absolu depuis toujours. Ça se reproduit constamment et ça n'a toujours pas évolué.
Les personnes qui le voient ne sont pas celles qui créent.
Moi, ce que je reproche à ce film, c'est qu'il prêche des convaincus, en fait.
C'est toujours comme ça, mais d'un autre côté, ça peut aussi inciter les convaincus à gueuler un peu plus fort, ce qui est le but.
Ce qu'ils font déjà, ce qu'augmente le film.
Ce qu'ils font visiblement pas assez, parce que ça va pas...
Enfin, ils font des émeutes.
Évidemment, mais le message ne passe malheureusement pas encore. Et c'est là qu'est toute la dualité et le problème de ce sujet.
Je vous rappelle que c'est exactement ce qu'on disait à propos du documentaire à propos d'Harvey Weinstein. C'est-à-dire que c'est uniquement des gens qui sont touchés ou qui sont concernés ou qui ont une sensibilité qui vont aller le voir. Et du coup, ça peut avoir aussi, ça peut être à double tranchant aussi, quoi.
Non, mais quand je dis il prêche des convaincus, c'est que la colère, elle existe déjà. Donc ce que je veux dire, c'est que le film va iconiser, va jouer sur justement la sympathie que justement ce public-là peut avoir, mais c'est un film très ciblé en fait. Autant on parlait des Gentlemen la semaine dernière qui visait les bofs blancs anglo-saxons, ben pourquoi pas. Ben là, c'est ça vise un public qui est sensibilisé à la lutte pour les droits des Noirs. Quoi.
J'ai vu une interview il y a deux jours de la réalisatrice et qui expliquait en fait que les Afro-Américains sont absolument terrorisés maintenant dès qu'une voiture de police leur demande de se garer sur le bas-côté. Quoi. Ils sont absolument terrorisés. Même s'ils n'ont absolument rien fait. Quoi. C'est
Cette histoire de peur, comme tu dis, on la voit dans La Mule de Clint Eastwood, justement, avec cette peur de la bavure qui est plus forte que la probabilité de bavure en elle-même.
Ouais, et nous, on parlait avec Hera là, à l'instant de Blindspotting, qui est un film qui, pour le coup, parle vraiment du sujet, hein, qui est même à fond dedans, en fait, et qui parle de la réaction d'une personne qui a été initialement violent, mais qui du coup est en train de subir les affres de la violence qu'il a pu vivre avant, même si il est totalement repenti, il a purgé sa peine et on lui fout pas la paix. Mais du coup, ça te montre aussi que quand t'es noir aussi, c'est pas simple.
On est super super long, donc on va peut-être s'arrêter là. Sauf qu'il y a un dernier mot de Gab, non? Gab, merci d'être venu. Tu reprends la route?
Merci à vous.
Parle-nous de ton podcast un peu, de 4 à 7.
Alors, De 4 à 7, c'est un podcast qui arrive deux fois par mois où on parle de musique de film et du coup, à chaque épisode, on analyse une partie de la BO d'un film. On parle de la musique autant en lien avec les images ou pour ce qu'elle est devenue après. Enfin, voilà.
Je vous invite à l'écouter.
Je participe au dernier épisode.
C'est lequel?
Ça veut dire si vous m'aimez pas, n'y allez pas, quoi.
Ah merde, non, tu vas les faire fuir.
Je défonce Suspiria de Luca Guadagnino alors qu'elle m'avait demandé d'être gentil et finalement je me suis un peu lâché.
C'est l'inverse, je te demandais d'être méchant et t'as été gentil.
Ouais.
Ouais.
Enfin, au final, j'ai été plus méchant que ce que je voulais dire.
Le lien en description. Merci, nous on va repartir pour de nouvelles aventures, de folles aventures. Par contre, c'est Thierry qui nous quitte pour le prochain film.
Juste pour le prochain.
J'ai rêvé de Saddam Hussein, de Mohamed VI. Que des dictateurs arabes. Et là, je comprends pas. Pourquoi il y a Poutine?
Chaque fois, c'est moi qui les embrasse. Et le pire dans tout ça, c'est que j'aime ça.
Ah, mais wallah, si je rêve à Ketahan Bouch, je me jette par la fenêtre.
Les conflits, les dualités, c'est fatigant. Je vous propose de vous allonger sur le divan et d'en parler tranquillement. Je suis toujours avec mes deux personnalités que j'ai réussi à réconcilier pour cet épisode, Hera.
Ouais, salut.
Et Yassa.
Hello.
Ce sont deux personnes distinctes, on vous le dit, on vous le reprouve une fois de plus, ce ne sont pas nos deux personnalités, c'est bon, tout va bien. Et pour les faire parler, on a Sophie qui nous a rejoint. Salut Sophie.
Salut.
Je pense que c'est la première fois qu'il y a plus de meufs que de mecs, je voulais juste en parler vite fait.
Je trouve ça, ouais, c'est ça. Voilà, Thierry est parti.
Ça fait quoi d'avoir un harem?
Eh ben, on va se retrouver au Maghreb pour en parler, c'est vachement bien.
Ou hammam, justement.
Ou hammam.
Hammam.
Un divan à Tunis, Arab Blues, en version anglo-saxonne, version internationale, de Manel Labidi. C'est le premier film de la réalisatrice, premier long, avec Golshif Tefarahani, qui joue une psychanalyste qui retourne au bled, qui retourne à Tunis pour installer son cabinet. Elle revient de Paris et elle vient s'installer à Tunis, un cabinet de psychanalyste. C'est, disons que c'est exotique dans le coin, c'est assez, les locaux ont du mal à s'y faire. Et donc elle va faire face à l'incompréhension et elle va devoir s'adapter dans ce milieu qu'elle connaît assez mal finalement. C'est une comédie, on va le préciser, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de comédies aujourd'hui. En même temps, c'est le deuxième film dans le montage, donc je ne sais pas pourquoi je dis ça, Thomas. J'ai besoin d'aller m'allonger sur un divan. Je n'en dis pas plus. Comment avez-vous trouvé?
Très très chouette. Très très chouette film. C'est vraiment une comédie, donc il ne faut pas non plus s'attendre à une critique profonde de quoi que ce soit, parce qu'il n'y en a pas. Par contre, c'est extrêmement léger et très bien orchestré. On va s'enfoncer dans des clichés maghrébins qui sont extrêmement drôles si on est capable de les prendre à la légère et d'accepter justement la dynamique comique que ça peut avoir. On va aller à fond dedans, on va aller voir en fait ce qui se passe de l'autre côté d'un cabinet de psychanalyste avec toutes les névroses de toutes les personnes, le tout dans un rythme bien soutenu où on va autant voir l'aspect des patients que de l'aspect de la thérapeute qui, elle, doit faire face à ses problématiques pour s'installer et pouvoir faire le travail qu'elle a envie de faire. Et ouais, c'est bien exécuté, c'est marrant, ouais.
Moi aussi, j'ai énormément rigolé, énormément. Comme le disait Eras, c'est pas un film qui va critiquer la société tunisienne ou maghrébine ou quoi que ce soit. C'est un film qui montre, en fait, qui montre le quotidien des gens et puis que ces gens, ben, eux aussi ont des névroses, ont des problèmes et ont besoin de les extérioriser, d'en parler, parce que justement, c'est un petit peu le genre de société où on garde tout pour soi. On n'est pas là. C'est pas le genre de société où on va s'épancher, que ce soit avec ses amis ou avec sa famille, ça ne se fait pas, en fait. Et en fait, ça va être, et du coup, l'arrivée de cette psychanalyse, ça va être l'occasion pour les gens, ben, de se libérer, quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir un petit peu de mal au début, puis très vite, on se rend compte que la file d'attente est immensément longue, quoi. Ça va très vite. C'est un petit peu l'enchaînement des clichés, c'est des clichés dont le trait est tellement grossi que ça en devient tordant, quoi. C'est-à-dire que faut pas s'offusquer, faut vraiment pas y aller en ayant un humour sage, voilà. C'est ça.
Oui, c'est bon enfant. Sophie?
Oui, moi j'ai bien aimé, en fait, parce que j'ai trouvé que c'était comme une espèce de succession de portraits, en fait, pendant le film, et que, en fait, limite la psychanalyste prend un rôle de second plan pour laisser la part belle à tous les autres personnages qui sont chacun complètement à fond dans leur rôle et qui, pour le coup, nous font quand même globalement assez bien rigoler, quoi. Donc,
Oui, c'est ça. Alors, déjà d'entrée, c'est tordant quand elle aménage dans son cabinet et que le type qui l'aide à décharger le coffre lui fait « C'est ton père ?»« Non, c'est pas ton père, c'est ton grand-père, alors ?»« Non. » »« Ah, parce qu'il a la barbe, il est juif. » C'est ton patron, quoi. Et en fait, il parle d'un portrait de Freud qu'elle a dans son...
Freud avec un fez.
On peut le voir sur l'affiche. Voilà, il n'y a pas de mystère. Exactement. Oui, en plus, l'humour était très subtil. Il y a des... Le jeu est inégal. Autant l'actrice principale, bon, je la sens pas tout le temps dedans, je suis pas trop... Autant les patients. Il y a un flic aussi qui est très drôle, qui est très burlesque. Hein, et le patient, le boulanger surtout, celui qu'on voit dans la bande-annonce qui rêve de dictateur. Waouh! Bon, certes, il est en roue libre, mais c'est dans une comédie comme ça, c'est rafraîchissant.
Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un acteur qui est habitué au tournage, qui a fait pas mal de séries, de films en Tunisie. Il me semble que son visage me paraît familier, donc je veux pas dire de bêtises, mais voilà. C'est Hichem Yacoubi.
Il y a un côté très chouette au niveau des comiques. Il y a différents types de comédies dans ce film. On va attaquer la comédie, donc le verbal, on va attaquer la comédie du geste, on va attaquer la comédie des détails qui sont placés en arrière-plan, qui te font marrer, même si c'est pas le sujet. Je pense à la secrétaire. Il y a une interaction entre le personnage principal et une secrétaire qui va l'aider à faire passer son dossier pour qu'elle puisse avoir le droit d'avoir un cabinet, parce que c'est pas forcément légal au départ. Et elle va changer de fond d'écran toutes les deux secondes avec un truc absolument hilarant. Donc à chaque fois, une nouvelle scène, un nouveau fond d'écran et un nouveau truc méga drôle, quoi.
La première fois qu'on la voit, c'est David Hasselhoff, Mitch Buchanan dans Alerte à Malibu. Il a un petit short avec sa bouée.
Exactement. Et c'est, du coup, il y a différents types, différents types de comiques qui s'installent, ce qui donne une variation. Parce que moi, au bout d'un moment, je dois avouer que je commençais un peu à me perdre dans les vannes. Je commençais un peu, vous voyez, ce moment où c'est drôle, mais vu que c'est le même comique qui est utilisé, les mêmes dynamiques qui sont utilisées à chaque fois, au bout d'un moment, moi, ça a tendance un peu à baisser. Et il me fallait quelque chose qui remonte. Et donc, c'est là où il y a une scène un peu plus calme et un peu plus triste qui s'installe et qui fait du bien, parce qu'on va retrouver autre chose. Donc, il y a vraiment différents comiques de situation. Ça aère vachement à ce niveau-là.
Oui, il y a le rideau qui s'ouvre à côté, voilà. Donc ouais, l'humour qui n'est pas toujours le même, qui n'est pas toujours...
Pas toujours dans le verbe, pas toujours dans le comique, l'utilisation des mots, le vocabulaire et autres. Alors évidemment, on a le côté hyper clichésque, comme ils le disent, ils parlent du post-colonial, ils font une vanne sur le post-colonial dans le film.
Il traite l'espèce de post-colonial, quoi, c'est une insulte.
C'est ça. Donc il y a l'aspect, déjà, le comique du fait qu'on mélange arabe et français dans une phrase. Ce qui fait que, rien que ça, moi, c'est quelque chose qui me fait toujours énormément marrer, que ce soit ça ou l'accent tunisien poussé à son extrême en parlant français me fait énormément rire, de base. Et là, ça, c'est utilisé. Donc déjà, ça, la dynamique. Et là, il y a une dynamique au niveau des situations. La situation, elle achète une voiture, et c'est une voiture toute pourrave.
Une Peugeot 404.
Une Peugeot 404, et le mec réussit à lui vendre comme si c'était...
petit, petite info, c'est le genre de véhicule où on transporte les poulets en général.
C'est une bétaillère, c'est un pick-up avec le truc derrière.
C'est ça, donc il y a plein de types d'humour et donc c'est très rafraîchissant de pas être fixé sur un seul sujet qui pourrait être juste on va juste se moquer des clichés, on va juste enfoncer des portes ouvertes et voilà.
Mais aussi, faut dire que tout le monde en prend pour son grade. Ouais. C'est-à-dire que les hommes, les femmes, les gros, les minces, les beaux gosses, les moches, enfin, c'est les juifs, les musulmans, les français, les arabes, les frères musulmans, les imams. Enfin, tout le monde va avoir droit à sa petite punchline, quoi.
Et en plus, il y a des moments, toutes les deux, Hera et Yassa, vous riez à des moments. Et là, on se retournait avec Sophie. Ah, je crois qu'il y avait un truc.
Enfin, je dois dire, Yassa et moi, on a des origines aussi de toutes les deux kabyles, et ça joue dans les fêtes. Enfin, Yassa sûrement dans son passif aussi, et moi dans le mien, où il y a des clichés qui, j'ai l'impression de voir des scènes de famille le dimanche, si tu veux, ou des trucs que j'ai entendu dans ma famille ou que j'ai pu voir aussi. Et ça rajoute encore plus une dynamique quand je l'ai vécu. Et encore, moi, j'ai pas vécu dans ce pays-là, donc j'ai pas vécu au Maghreb, donc je me rends même pas compte comment ça peut être en réalité. Mais mon background fait que effectivement, il y a des trucs qui sont encore plus drôles. Ouais.
C'est-à-dire que justement tout ce qui est grossi, tout ce qui est amplifié par l'humour, en fait, à chaque fois que je voyais quelque chose, je me disais « mais oui, mais c'est ça, c'est exactement ça, la secrétaire qui écosse les petits pois à son bureau, oui, ça arrive, c'est le genre de choses… »
Dans l'administration.
Oui, voilà, dans l'administration, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui n'en foutent pas une, et alors que tu as des gens qui ont besoin que leur dossier avance et tout ça, alors qu'en fait, qui revendent des sous-vêtements en
scratch. Ça, surtout, ils te vendent un foulard tout pour rave que tu trouves sur les marchés, que tu sais c'est de la mauvaise qualité, et elle essaye de te refiler en disant que c'est ta copine. C'est pareil quand sa patiente d'un salon de coiffure débarque dans le salon et dit pourquoi tu veux que je te dise vous, on est que nous deux, pourquoi tu veux que je te vouvoie, ça sert à rien. Non, mais dans ce cas-là, je te parle en arabe parce que je vais pas te vouvoyer en parlant en français, ça sert à rien, on est toutes les deux. Et c'est voilà, ça c'est pareil, tout le monde.
Mais parle arabe alors. Ah ben non, moi je suis éduqué, je parle français.
je parle un très bon français, s'il te plaît. Et ça c'est voilà, ça c'est pareil, je te tutoie même si je t'ai jamais vu de ma vie. C'est parce que c'est tout le monde est la famille, quoi.
Oui, et puis alors, bon, là vous parlez de blagues du bled, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des blagues sur la psychanalyse en général quand les patients défilent sur le divan. C'est un vrai régal. Et d'ailleurs, cette psychanalyste, justement, qu'est-ce que t'en penses, toi, Sophie ?
Le choix qui a été fait pour ce rôle de Golshifteh Farahani est en un sens pertinent, même si, a priori, son interprétation n'est pas mémorable, et voilà, parce que c'est une actrice iranienne qui n'a plus le droit de retourner dans son pays. Donc, elle a disons que c'est assez présent chez elle, ce côté de plus pouvoir... le côté de l'exilé, quoi, qui peut plus retourner dans son pays. Et du coup, d'endosser ce rôle de la psychanalyste qui est partie en France, jeune, et qui revient retrouver sa terre natale, je pense que c'était quelque chose, sans doute, qu'elle avait envie de rendre à l'écran. Et ça peut-être en partie expliquer le côté où on peut la sentir un peu en décalage avec le reste des acteurs et du film, parce qu'elle a cette espèce de douleur de l'exil et de jamais forcément être au bon endroit, à l'endroit, et donc du coup elle est décalée tout le temps, quoi.
Oui, elle a un rôle un peu, enfin, on la sent un peu décalée, alors éteinte presque par moment, ou observatrice du moins. Et puis il faut dire que le cast autour est tellement exubérant est tellement explosif que ça, oui, ça fait un contraste. Ça joue d'autant plus.
Temps, si t'es un psychanalyste explosif, je suis pas trop sûre de vouloir retourner en consulte avec lui, tu vois. Enfin,
Ouais, il y a un côté comme ça qui fait que la psychanalyste, moi je l'ai vraiment prise comme un écrin des choses qui l'entouraient, en fait. Elle absorbe, c'est une éponge, comme souvent chez les psys et autres personnes qui travaillent dans le monde de la thérapie. Tu absorbes tout ce qui se passe au niveau de tes clients, au niveau de tes patients, de tout ce qui t'entoure, et en fait, personne ne s'occupe de toi, ce qui fait qu'au bout d'un moment, t'imploses, alors que tu veux juste faire ton taf, et il y a plein de trucs qui t'en empêchent, et c'est un peu ce qui lui arrive. Après, avec ce que tu viens de dire, Sophie, moi je vois aussi peut-être un parallèle, parce qu'elle explique jamais, en fait, pourquoi est-ce qu'elle a quitté la France.
Elle dit qu'il y a des questions de concurrence, c'est-à-dire qu'il y avait déjà trois confrères dans son immeuble et 10 dans sa rue.
Ouais, c'est vrai qu'elle le dit, ouais.
Elle se pose un petit peu une question d'utilité, c'est-à-dire que là où elle était, il y avait des tonnes de psychologues, psychanalystes, etc.
Et elle doute.
Et elle doute un petit peu de ses capacités apporter sa pierre à l'édifice. Du coup, elle décide de rentrer pour se dire, ben, écoute, il n'y en a aucun là-bas. Enfin, il y en a très peu. Du coup, ben, voilà, je vais servir à quelque chose, quoi.
D'où le doute si elle s'aperçoit qu'en fait, elle ne sert peut-être pas à quelque chose. Et pourquoi il y en a si peu, peut-être voilà.
Mais après, peut-être qu'il y a d'autres trucs.
Ouais, non, mais du coup, c'est vrai que moi, je voyais aussi le côté personnage absent. Je peux pas m'empêcher d'y voir un parallèle avec ce que Sophie a dit sur le côté impossible de rentrer chez soi, le côté exilé. Et du coup, tu prends cette place de quelqu'un qui est un peu déraciné, qui sait pas trop comment se placer, qui galère en fait à refaire à remettre des marques dans un pays, quoi.
Par exemple, je remarque qu'il y a quand même aussi une certaine universalité dans ce film à travers les problèmes des patients. C'est-à-dire qu'on va avoir la patiente qui a un problème avec sa mère, une mère qui a un fils trop collant, un homme qui a des penchants homosexuels, son oncle, il me semble que c'est son oncle, oui, qui a un problème avec la boisson, c'est-à-dire qu'il s'est mis à boire, il boit tout le temps.
Il y a un running gag avec une canette de coca.
Voilà, c'est ça. Et du coup, on se rend compte que même là-bas, les gens ont les problèmes qu'on pourrait avoir ailleurs, quoi.
Plus ces problèmes qu'elle a elle-même, parce que c'est une femme célibataire, tatouée, percée et tout.
Alors pour le coup, ça c'est un petit peu le truc qui m'a gêné. C'est un petit peu, j'ai senti un petit peu forcé le love interest. Au début, c'était assez drôle, mais du coup, j'ai pas trop compris la scène de fin où elle est assise et puis on la voit aller.
C'est hypothétique en fait. Elle a dit je vous laisse de faim, démerdez-vous zizi, et puis voilà quoi. C'est
Elle s'imagine ce qu'elle pourrait faire.
C'est comme ça que j'ai compris, mais ça m'a un petit peu perturbée. Et un petit peu cette obligation elle le dit, je veux pas. À chaque fois qu'on lui demande si t'es mariée, non, pourquoi? Parce que j'aime la solitude, ça me plaît comme ça, etc. Puis finalement, on lui colle un petit peu quand même le gars à la fin, quoi. Il y a une possibilité, quand même. C'est bien beau d'être seule et d'avoir un taf, mais maintenant, faut te trouver un mari, quoi.
Il y a une espèce d'injonction à la relation amoureuse qui est fatigante dans beaucoup de films et dans beaucoup de secteurs où tu as ce côté faut que ça se passe comme ça parce que c'est comme ça qu'on fait un bon film et qu'on fait une bonne comédie, comme ça j'arrive à clore mon histoire alors que c'était très bien comme ça. Ouais.
Mais il faut comprendre aussi qu'il y a des histoires où c'est nécessaire, c'est-à-dire que t'as besoin de développer une relation sentimentale entre deux personnages. Il y a des histoires où c'est pas nécessaire, parce que l'histoire qui est racontée est beaucoup plus intéressante qu'une potentielle histoire d'amour, quoi. Et du coup, en fait, on se retrouve avec du surplus, quoi, qui sert pas forcément à grand-chose, et qui, c'est pas nécessaire. Arrêtez de nous foutre des histoires d'amour tout le temps, on a les Disney pour ça, c'est déjà bien suffisant.
Merci les filles pour cette séance, je me sens beaucoup mieux. Alors les filles, alors toi tu viens demain, donc on fera la reco demain, mais Hera, est-ce que tu as une reco cette semaine, quelque chose que tu as vu à côté dont tu as envie de parler? Ça peut être en série, ciné, tout ce que tu veux.
Oui, pour une fois j'ai quelque chose. J'ai quelques mois de retard, mais je viens de binge-watch His Dark Materials. Donc pour ceux qui ont lu dans leur enfance ou plus tard la trilogie des Royaumes du Nord de Philip Pullman, donc un livre anglais sur un royaume incroyable, magique, qui se passe dans le Nord, et des mondes parallèles et des petits animaux qui servent d'âme et qui accompagnent les humains. Et tout ce rapport à beaucoup, à la théologie, au divin, à plein de choses, relations humaines, qui était super sous forme de livre, que moi j'ai adoré quand j'étais petite. Ils ont après l'échec du film, le mauvais accueil du film il y a quelques années, de La Boussole d'Or, ils ont sorti une série, et donc là on est dans une saison de 8 épisodes, la première, qui reprend les thèmes du premier bouquin, et c'est plutôt bien foutu, avec un James McAvoy en forme. Et je la recommande vivement pour ceux qui ont en tout cas aimé les Royaumes du Nord, parce que je pense que c'est peut-être un peu moins facile à approcher quand on n'a pas lu le livre. Mais en tout cas, pour ceux qui ont lu et aimé, foncez, c'était super.
Et un film peut-être, un film qu'on a vu ensemble, vite fait, Tu mourras à 20 ans de Amjad Abou Alala, film soudanais, 8e film de fiction soudanais tourné de tous les temps. Waouh.
Ah ouais, c'est flippant. On a passé un petit moment assez sympa. C'est sur un enfant qui quand il naît, il y a un prophète qui s'effondre après avoir dicté... Est-ce que c'est une sourate? Rattrapez-moi si je dis des trucs pas bien. C'est pas une sourate, hein. Non, c'est juste...
C'était des formules de louange à Dieu, quoi. Ouais, voilà, c'est ça.
Donc il s'effondre à la 20e, et donc le prophète... un prophète indique... bah, ton enfant va mourir à 20 ans, quoi.
Enfin, c'est, je pense que c'est plus l'équivalent d'un saint ou d'un, ouais, d'un marabout plus qu'un prophète en tant que...
Le tchèque.
Ouais, c'est le, ouais, voilà, c'est ça, le tchèque. Voilà. Ouais, je savais plus le nom, effectivement, pardon. Et donc, en fait, on va suivre l'histoire de vie de cet enfant qui, du coup, depuis qu'il est né, sait qu'il va mourir à 20 ans et sa famille aussi. Et ils sont tous persuadés que ça va se passer comme ça parce qu'on leur a dit, donc ça va se passer comme ça. Et donc, c'est l'histoire de comment est-ce qu'on vit quand on sait à quel âge on va mourir.
Ouais, et j'y rajouterais que c'est l'inverse d'une tragédie grecque.
Ouais.
C'est-à-dire qu'une tragédie grecque, t'as une fatalité, t'as une prophétie, on t'annonce, il va se passer ça. Tu vas tuer ton père et ta mère, ou coucher avec ta mère, ou ce genre de truc. Enfin, tu vas mourir à tel moment. Tu vas tout faire pour l'empêcher. Et en tout faisant pour l'empêcher, tu vas faire que ça se réalise. Et là, ben, c'est au contraire, c'est quelqu'un qui va vivre persuadé que ça va arriver et qui va absolument pas lutter contre. Et du coup, qui va s'empêcher de vivre parce qu'il croit qu'il va mourir. Est-ce qu'il va mourir à la fin? Ça, c'est une autre question. Je ne le révélerai pas. Mais ouais, c'est étrange. Ouais, il y a cette image-là de la mort qui pèse sur ce personnage. Qui pourrait s'émanciper, il a 20 ans quand même, c'est super jeune, hein. Voilà, parce qu'on arrive, on est à la 19e année de ce gamin et il approche de la fameuse date et ça flippe.
Mais justement, c'est qu'il faut comprendre qu'il vit dans un très petit village où tout le monde l'appelle le fils de la mort, c'est-à-dire qu'il est entouré, il est constamment entouré par ça. Sa mère ne le laisse pas sortir, jouer avec les enfants. Une fois qu'il commence à côtoyer les autres enfants, il se fait martyriser.
Ben oui, il peut pas mourir.
Oui, avant ses 20 ans, oui, voilà. Ça montre aussi un petit peu, la confiance qu'on peut mettre dans des signes et dans des paroles, et à quel point on peut les laisser guider nos vies, justement, aussi. Et puis, il y a autre chose dont je voudrais parler, c'est le rapport à la mort. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à la mort qui est à la fois froid, mais vraiment froid, parce qu'il y a des phrases qui sortaient qui, nous, on était là, oh non, vous n'avez pas osé dire ça, mais en même temps qui faisait rire, parce que c'est tellement détaché, ça frôle l'absurde, exactement, ça frôle l'absurde, que tu te... Et d'un côté, je peux le comprendre aussi, tu vois, je peux comprendre qu'on ait ce genre de rapport à la mort, de se dire, parce que c'est, ils vivent quand même dans des conditions où la mort frappe beaucoup, beaucoup plus, ou peut-être plus souvent que nous, on a l'habitude de voir et de côtoyer. Donc, ils ont un petit peu ce détachement.
C'est un film qui est super intéressant si vous voulez challenger vos croyances. Si vous voulez aller challenger, aller visiter en fait ce qui se passe ailleurs, comment le système de croyance d'un autre peuple fonctionne, comment est-ce que ça fonctionne ailleurs, et aussi du coup il y a un espèce de rapport au respect de ça, de ok, bah pour moi ça me semble totalement absurde, mais eux c'est leur mode de fonctionnement, donc comment est-ce que ça fonctionne quand on a cette vision là.
Et moi je rajouterais, je suis assez content, on parlait de plans iconiques avec Queen and Slim, et là pour le coup on en a aussi, on a de très beaux plans, il y a la mère qui se fait des images justement dans sa tête, elle a des images mentales qui sont magnifiques, ce sont de vrais tableaux. Et ça fait plaisir. Et j'ai pris plus de plaisir d'ailleurs, parce que c'était plus rare, c'était plus pesé que Queen and Sleep qui ne balance ça pendant tout le film. Mais bon, ça. Merci Ira.
Merci Thomas.
Merci Sophie.
Merci Thomas.
Bon, quant à toi, il y a ça, tu nous rejoins tout à l'heure. On va aller un peu plus vite après. Hein.
Ouais, vite, 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 vite.
Salut tout le monde, bienvenue sur mon live stream. Aujourd'hui, je détruis un robot. Première étape, boum! Ça a marché! Ah ben non, ça a pas trop marché en fait. Y'a qui derrière ces machines?
Et vous vous demandez encore où va l'argent du contribuable?
À moi de jouer! Vas-y, prends le volant. J'ai mis le régulateur.
J'ai trop l'impression d'être Vin Diesel.
C'est sacré la famille Tom.
Sonic, le film.
C'est février, c'est les vacances, et donc il y a des films pour la famille qui sortent, et notamment un film attendu des geeks, enfin attendu avec un fusil, Sonic le Hérisson, l'adaptation vidéoludique dont le développement a été marqué de moult péripéties, notamment un premier design assez déroutant. Il arrive enfin avec un résultat tout aussi déroutant, avec Jim Carrey dans le rôle du docteur Robotnik, Eggman. Et on l'a vu en français parce que c'est les vacances et qu'en journée, il n'y avait que de la VF. Malik Bentala qui double le hérisson bleu. Alors, je suis avec Yassa.
Salut Thomas.
Et avec notre docteur Robotnik, Thierry. Thierry va à fond la caisse. Est-ce que c'est une sortie de route pour cette version ? Pour cette version, pour LOL, j'en sais rien. Enfin, quoi qu'il arrive, la seule question à se poser, et je la demande encore une fois à mes potos geeks hein, qui ont plus de 30 ans, pourquoi ? Enfin, j'ai quand même des gens qui me disaient « Oh, on va quand même aller voir ce que ça donne, parce que bon, il y a peut-être moyen que ça puisse être sympa. » À partir de quel moment est-ce que, dans un univers où Super Mario le film a existé, on pense que faire la même chose avec Sonic, c'est une bonne idée ? On a un hérisson qui court, qui va très vite, qui traverse des anneaux, qui ramasse des objets, et il y a un méchant qui kidnappe des animaux et dont il faut détruire le robot. Tu peux pas écrire un scénar à partir de là, c'est absolument impossible.
Si, mais c'est pas ce qu'ils ont fait.
Voilà.
Ils ont juste mis Sonic dans un univers, dans l'univers tel qu'on le connaît. Ils ont fait des blagues de prout et c'est parti.
Ah, donc c'est pour ça que c'est l'archétype type du truc qui est uniquement conçu pour le jeu vidéo et qu'il est impossible de transférer sur un autre médium. Oui, il y avait une sirène animée. C'était du gros caca. Voilà, on est sur les blagues de paix. Donc non, c'était impossible de transcrire ça en film. Fallait pas le faire, c'est tout.
Alors, non, les séries animées, attention, il y a à boire et à manger dans les séries animées.
Il va vous parler, oui, bon, d'accord.
Eh ben ouais, mais c'était déjà mieux. Il y a ça.
C'est de la merde, je suis désolée d'être aussi catégorique.
On salue les enfants et les parents qui nous écoutent.
On s'en va. Hein.
Il ne doit pas y en avoir beaucoup, donc on peut y aller.
Ouais. Ça me fait mal de dire ça pour les gens qui ont bossé dessus et qui n'ont pas un gros pouvoir de décision, mais qui ont quand même travaillé dessus, quoi. Mais... c'est immonde, il y a rien, sur 1h40 de film, il y a une seule blague à laquelle j'ai rigolé de bon cœur, mais tout le reste, c'est, je veux dire, même la salle, quoi, il y avait quelques rires, et il y avait des moments, il y avait tellement de moments de creux que les enfants se mettaient à parler pendant le film, parce que ça les intéressait pas.
Ils se faisaient suer sec, ils jouaient avec les bouteilles, des trucs, et ils regardaient pas le film, quoi.
Les adultes rigolaient plus que les gosses.
Pourtant, ça volait pas haut. Hein.
Voilà, mais c'est le signe. Les adultes rigolaient plus que les gosses.
Il y a encore quand ils ont rigolé, quoi.
Oui, non, c'est... Je riais de dépit. Franchement, il y a des moments où je riais, mais je riais, je me disais non. Enfin, juste non, quoi. Vous pouvez pas... En plus, avec toute la hype, toute la com qu'ils ont mis autour, vous pouvez pas présenter un truc comme ça, c'est pas possible.
Ah, bah, le budget est parti dans la com, hein.
Oui.
C'est l'accident industriel parce qu'il fallait qu'ils le sortent à tout prix. Et voilà, comme tu disais, faut pas cracher sur ceux qui se sont investis dans le projet. Oui, putain, merde, force aux graphistes qui ont quand même leur boîte qui a coulé parce que des enfoirés leur ont fait faire ça, quoi. Ce qui est encore pire de. Enfin, voilà, c'est quand même un film qui a coulé une boîte, quoi. Pour ça. C'est encore triste. Je veux dire, les mecs peuvent même pas regarder leur travail en se disant au moins on a fait un truc qui a. Bah, ils ont fait un truc qui tient la route, hein, graphiquement c'est joli, hein. Mais les mecs peuvent pas se dire, voilà, au moins on aura sacrifié notre dernier boulot au service d'un bon film, quoi.
D'ailleurs, ouais, ils ont dû refaire quasiment 90% du film en urgence parce que ils avaient fait un design de Sonic humanoïde de taille adulte. Et il y a une trace du début. Au début, on voit Sonic enfant qui a une gueule qui ressemble un peu, mais en version enfant au premier design. Bon, celui-là, on se doute qu'ils l'ont pas retouché dans l'urgence parce que ça passait.
Certaines personnes avaient loué la performance de Jim Carrey, je suis désolée.
C'est du Jim Carrey caricatural. Oui, il sort de The Mask, on lui demandait tu fais tes vieux sketchs.
Non, mais c'est Johnny Depp qui fait du Johnny Depp, quoi.
J'ai plus l'impression de voir Johnny Depp. Hein. Enfin, si Jim Carrey, enfin, quand on dit oui, il a une grande performance, c'est parce que Jim Carrey ne parle pas avec son... Enfin, Jim Carrey n'est pas un mec qui a des expressions faciales, c'est un mec qui a un corps facial. Tout est centré sur ses mimiques, mais pas parce que... Bon, c'est un caméléon au niveau de son visage, il est capable de faire des trucs, mais son corps est toujours en harmonie, il bouge beaucoup. Là, le mec est vissé sur sa chaise, il fait trois blagues. Bon, on l'a vu en VF, ça aide pas forcément. Peut-être que les intonations qu'il met en VO sont fantastiques. Mais en tout cas, il s'est pas foulé, quoi. Contrairement à ce que l'on rencontre, c'est un grand retour de Jim Carrey. Non. Il est venu chercher son chèque, il a fait le travail parce qu'il fallait le faire, mais en ayant rien à foutre.
Il y a juste une scène où il utilise son corps, où il fait 2-3 trucs, mais c'est totalement gratuit, ça ne sert absolument à rien, et c'est moche, c'est pas drôle, c'est moche, et ça sert à rien. Et voilà, c'est juste 1h40 pour Sonic, quoi. Enfin, ça aurait dû être un épisode de 45 minutes, cette histoire.
Et encore, en plus, bon, Sonic, il y a un lore, quoi. Alors certes, il y a le coup des animaux, mais il y a eu je sais pas combien de jeux vidéo où ils ont essayé de développer un univers un peu. Alors après Sonic en jeu vidéo, la 3D lui a pas fait du bien, mais ça c'est un autre débat.
Sonic Adventure c'était plutôt bien sur Dreamcast. Après bon...
on va pas faire tous les Sonic, c'est vrai que c'était compliqué. Moi je trouve que Jim Carrey s'en sort plutôt pas trop mal parce que justement il cabotine et que bon ben Jim Carrey qui cabotine ça reste sympa, d'autant que son doubleur est toujours au taquet, ce qui fait plaisir parce que le pauvre Malik Bentala, il a pas été dirigé et on a pris sa première prise à chaque fois, on a l'impression qu'il est pas là par moment, qu'il lit sa feuille comme s'il découvrait le texte. C'est assez terrible, je parle même pas du niveau des vannes. Affligeant, on en a parlé. C'est...
Pourtant, vous savez, les gars, que j'ai un humour assez facile. Mais là, vraiment, soit je riais pas, soit je riais de dépit. Vraiment, c'était pas drôle, quoi. Et pourtant, je rigole à pratiquement tout.
On notera un petit troll sur l'ami Mario aussi. Parce qu'il ne veut pas aller dans le monde des champignons. Voilà. Parce que les champignons, ça pue. Ah, c'est texto, quoi. Voilà. Bon, on va passer vite là-dessus. Il y a peut-être un autre film où on peut peut-être amener les gamins. Et encore, c'est assez... Le film est plutôt bon. On l'a trouvé bon, mais peut-être qu'il a un problème de sujet. On va oublier Sonic, mais on va se tourner vers Le Prince Oublié de Michel Hazanavicius avec Omar Sy, mais également François Damiens et Bérénice Bejo. C'est l'histoire d'Omar Sy qui raconte tous les soirs des histoires à sa fille. Et dans ces histoires, il joue le rôle du prince, qui est un peu le héros de sa fille. Sauf qu'arrive le jour où sa fille grandit et rentre au collège. Du coup, elle a d'autres centres d'intérêt, elle se fait de nouveaux amis et son attention se porte sur le beau gosse de la classe. Et donc, Max, elle n'a plus trop besoin d'histoire et le centre de ses histoires, de ses rêves, de ses pensées se tourne vers lui. Et du coup, le père se sent un peu abandonné, délaissé. La particularité ici, c'est que les rêves sont mis en scène, c'est-à-dire qu'on a un aspect dans le monde des contes, dans le monde des histoires, on a des passages où justement tout le monde est déguisé dans les rêves, c'est présenté comme un studio de cinéma où les personnages se baladent, où il y a des effets et autres. Et on voit Omar Sy qui se fait prendre son premier rôle pour être remplacé par le jeune Max. Un sujet touchant sur la transition du père, mais justement... Dans un film familial, est-ce qu'on se trompe pas de cible ?
Il y a un aspect tout petit quand on est dans le monde imaginaire, avec justement cette espèce d'animaux grandiloquents, ces couleurs qui te pètent à la gueule tout le temps, et le côté très binaire des personnages. Les gentils sont très gentils, les méchants cabotinent, mais ils sont pas très méchants, mais c'est le méchant voilà, qui te plaît pas, mais t'as envie de lui taper dessus et de lui faire un câlin à la fois. T'as un petit peu tout ça, mais c'est vrai que dans le sujet, déjà on est du point de vue du père, comme tu le disais, donc forcément on est du point de vue adulte qui doit couper le cordon et accepter que ses enfants grandissent et se rendre compte que son rôle doit changer. Jusqu'à l'arrivée des petits-enfants. Hein. Voilà. Et on a aussi le côté... la gamine passe très vite de l'état d'enfant avec qui les histoires vont fonctionner, donc pour les tout-petits, ça va marcher, à une adolescente qui va plus s'intéresser à ça. Donc on va parler de ça aussi. Donc c'est vrai que l'aspect tout-petit où on peut ramener les gosses, s'estompe, il est un peu biaisé. Après, quand on retourne dans le monde imaginaire, malgré tout, il y a quand même le côté... C'est le monde imaginaire qu'un papa a créé pour une gamine de 6 ans, mais qu'il n'a jamais fait évoluer. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle ne s'y intéresse plus aussi. Les histoires qu'il lui invente ne grandissent pas en même temps que la fille. Et du coup, quand on est dans le monde imaginaire, ça reste encore très enfantin.
Ça reste très enfantin, mais il y a quand même... On a un passage aux oubliettes, là où vont les personnages oubliés, et il y a des personnages encore plus enfantins qui ont été oubliés. Donc il y a une légère évolution, mais ça reste enfantin, oui.
Ça après, de toute façon, on avait fait la comparaison, ça fait penser autant à Vice Versa qu'à Toy Story. À Toy Story 3, où il y avait même le côté le broyeur à jouer, où les anciens jouets étaient jetés. Et là, pareil, dans Vice Versa, où il y avait les oubliettes, où quand un jouet est oublié, il finit là-dedans. Parce que l'enfant grandit, il n'en a plus besoin. Et du coup, oui, il y a cet aspect-là, de toute façon, tu abandonnes au fur et à mesure tes repères. Donc, ça reste assez logique, mais c'est vrai que, oui, j'imagine que si t'as 4-5 ans avec un hérisson bleu qui court, ça te fait marrer, là, tu vas pas capter que le hérisson bleu, tu vas l'abandonner au bout d'un moment, donc peut-être que ça te parlera pas, parce que t'as pas encore grandi, et qu'on a besoin d'être peut-être dans cet aspect... Nous, on est peut-être un peu trop vieux, et eux, ils sont peut-être un peu trop jeunes. La cible, est-ce que ce serait pas justement l'adolescent qui doit aussi comprendre que son père a du mal ?
Moi, je verrais... Alors, il y a ça... Est-ce que tu as un avis sur la question du placement des cibles avant que je...
le placement... Alors, je vais te dire, c'est que... moi, je me suis bien amusée pendant les moments où on était dans le monde imaginaire. Et dans les moments où on était dans le monde réel, la coupure était trop nette. Ce qui veut dire que, justement, je pense que je ne saurais pas vers quel public diriger ça. Parce que j'aurais préféré soit avoir un film complètement social sur le passage à l'adolescence et la coupure du lien parent-enfant, etc. Soit avoir un film totalement imaginaire, avoir un début de le papa qui raconte à sa fille et puis on reste complètement dans le monde imaginaire ensuite, tu vois, et on continue les aventures et c'est grandiloquent et ça part dans tous les sens. Mais c'est vrai que c'est pas mauvais en tant que tel. C'est juste que à chaque fois qu'il y avait une coupure, et des fois les coupures se faisaient assez régulièrement, on n'avait pas le temps de trop installer une scène, que tout de suite il fallait sauter dans l'un des deux mondes. Le montage était assez cuté de ce côté-là, ce qui fait que ça me dérangeait parfois un petit peu. Et justement, à quelle cible l'attribuer, franchement, j'ai pas de réponse là.
Mais moi je pense que c'est un sujet pour les papas, pour les parents. Le problème c'est qu'il y a un aspect qui est très enfantin, donc qui n'attire pas forcément, on se dit c'est pour la famille, et la famille ça attire qui? Ben, ça, le design, l'apparence, ça pourrait attirer les petits, mais ceux qui ont l'âge de la petite, elle commence à avoir 11 ans, elle entre au collège, elle veut faire la grande, des designs comme ça intéresse pas, et donc le public de cet âge là ça l'intéressera pas non plus. Et c'est ça, c'est pour ça que là à l'heure actuelle, tout ce qu'on a c'est les séances du mercredi matin, ça a pas bien marché. On verra le reste de la semaine, le reste des vacances, que ça donne, mais j'ai peur qu'il trouve pas son public à cause de ça.
Ce qui serait dommage, parce que ouais, c'est vrai qu'en soi, même si c'est vrai qu'on va... il est pas majeur dans la filmographie d'Azanavicius, il sera pas majeur cette année, mais c'est une belle proposition de cinéma, en tout cas pour ce qu'il tente de faire, parce que c'est vrai que même visuellement, il y a des idées. Il y a quand même un côté humoristique très prononcé. Je veux dire, je tiens à rappeler que Yassa se marrait à chaque fois qu'on citait le nom du personnage de François Damien qui s'appelle Prit Prout. Voilà, il fallait quand même le caler au moins une fois dans cette fois-ci. Voilà. Hein, Yassa, Prit Prout.
Non, arrête.
Je voulais juste ça. Maintenant, tu pourras le coller où tu veux à chaque fois voilà. Qu'il y a ça est triste.
Et c'est dommage parce que ouais, ce film, il y a plein de trucs super mignons. Moi, j'adore. Alors, j'adore les personnages secondaires qui passent dans le fond. Il y a l'homme aquarium. Enfin, c'est l'homme sac en plastique avec un poisson rouge dedans, ou l'éléphant en laine. Ouais, voilà. J'adore ça. Et puis, c'est un film qui marque encore une fois l'amour d'Azanavicius pour le cinéma. Ça va s'inscrire dans tous les hommages qu'il fait dans ses films au cinoche. Quelqu'un qui aime énormément. Là, le fait d'avoir les coulisses des contes comme un film, ça va s'inscrire encore dans son univers.
Je pense que peut-être, le film s'adresse plus aux adultes, que ce soit dans le monde réel où on a cette relation qui est dépeinte, ou que ce soit, je pense, dans le monde imaginaire où c'est plus, au lieu de présenter un monde imaginaire aux enfants, c'est peut-être plus une piqûre de rappel, un petit peu de nostalgie pour les adultes qu'on est et pour le monde imaginaire qu'on a eu. Et justement, en venant avec ses enfants, peut-être leur réexpliquer, essayer de créer du lien au lieu de juste de s'adresser directement aux enfants. C'est peut-être en passant par les parents que ça va se faire, voilà, je sais pas.
Au final, le scénario, putain, mais c'est vrai, c'est exactement le même limite que Toy Story 4. Hein. Le prince, le nouveau prince, c'est Fourchette. Tu vois, le prince oublié, c'est Woody qui essaie de se débarrasser de Fourchette. Enfin, bon, là, pas lui faire commencer à lui faire une mission de jouer, mais ils veulent se débarrasser du nouveau jouet, les deux jouets principaux, tu vois, pour justement garder l'esprit, il n'y a que nous que l'enfant aime. Et puis quand ils se rendent compte que l'enfant aimera l'autre jouet, quoi qu'il arrive. Ils finissent par accepter et laisser tomber. C'est exactement le même scénar que Toy Story. Hein.
Moi, j'aurais vu le premier Toy Story alors plutôt.
Ouais, ben oui, entre la rivalité Woody et Buzz. Ouais, mais bon, est-ce qu'on veut vraiment comparer Buzz à Prit Prout?
Arrête.
Merci à tous. Est-ce qu'on a des quelques recos pour cette fin de semaine?
Non, je t'ai juste à dire que j'ai rattrapé ce gentleman. Franchement, vous avez été tellement indulgent, mais c'est tout ce que j'ai à en dire. On va pas s'étaler, j'ai pas le temps.
Ah bon, d'accord. si, là.
C'était pas bien, hein. Franchement, je me suis fait chier, quoi.
Non, mais c'est parce que tu n'es pas un mâle blanc cisgenre.
Je suis pas un mâle blanc cisgenre, je suis pas fan de Guy Ritchie.
Moi, je recommanderais The Princess Bride, que j'ai revu il y a pas longtemps. C'est le genre de film, j'en ai pas beaucoup, mais c'est le genre de film que j'aime voir quand je vais bien et qui me remonte le moral quand je vais pas bien. Voilà.
Donc, tu recommandes pas des vieux films, machin, gnagnagna, voilà, on accepte Princess Bride.
Non, mais tu peux, non. S'il y a un vieux truc que t'as vu, qui t'inspire.
J'ai découvert Maniac Cop de Lustig, c'est super cool.
Ok.
Voilà, c'est un film d'horreur, enfin c'est un film pseudo-horreur, enfin si c'est de l'horreur, sur un flic qui pète un câble et qui commence à assassiner des gens, et du coup les autres policiers se rendent compte qu'il y a sûrement quelqu'un dans leur rang qui crée des immondices. Et c'est juste hyper intéressant dans la manière de filmer, parce que ce que je me dis, c'est que j'ai l'impression de voir un point d'ancrage de tous les films que j'ai vus avant cette date-là, je crois que ça date de 86, ne filmez pas de cette manière-là, et j'en ai vu beaucoup d'autres après. Donc du coup je me dis voilà, j'ai l'impression d'avoir vu un film pivot en fait. Voilà. Maniac Cop de Lustig. Le mec qui a fait aussi Maniac, dont j'ai vu le remake qui était super bien. Bref.
Et moi, dans les rattrapages, j'ai vu La Cravate. Voilà, documentaire. Documentaire qui va suivre un militant Front National pendant la campagne électorale, pendant la dernière présidentielle. C'est intéressant, ça montre ce qui a motivé ce mec-là à rentrer au Front National, à s'investir et autres. On le voit, il monte sa vie associative, il fait ses trucs. Il monte la Fédération Française de Lasertag. Il fait du Lasertag, le mec à côté, c'est son truc. Et ça montre aussi que le Front National, bon, a les idées du Front National, mais que c'est un parti comme les autres. C'est-à-dire qu'il y a des mecs en bas qui ont des idées, qui croient en ce qu'ils font, qui croient en leur combat, mais il y a un plafond de verre à l'intérieur du parti, et dès qu'il y a des postes, dès qu'il y a du pouvoir, dès qu'il faut prendre des portefeuilles, là, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus rien du tout, et ça s'entretue. Et il montre un peu cet univers-là. Pourtant, le mec, pendant la campagne, il va tutoyer. C'est le gars qui a fait la... Il y avait une vidéo, dont on parle d'ailleurs dans le documentaire, qui avait fait la fameuse vidéo avec Florian Philippot, qui voulait faire sa vidéo, qui voulait faire sa chaîne YouTube, avec la fausse tasse où il faisait semblant de boire. Et on avait les coulisses de ça, parce que c'est ce mec-là, c'est le mec qu'on suit, qui était responsable de ça. Et donc, le mec, il a été à haut. Donc, il a été dans les meetings, dans les sphères du pouvoir, dans les sphères du parti. Et ben non, il y a un plafond qui fait que même avec une cravate, le fameux nom de la cravate, parce qu'avec la cravate, l'habit fait le moine en fait. Tu vois aussi que l'habit fait le moine, ben ça suffit pas pour pénétrer ce monde-là. C'est très intéressant. Et puis il y a aussi, il balance aussi sur son histoire perso, et c'est très fort également. Je recommande, voilà. Merci Thierry.
Merci Thomas.
Merci Yassa.
Merci Thomas.
C'était Certain les Machos. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous rappelle que le concours des Podcasts Awards continue. Alors là, si vous nous écoutez samedi, il vous reste encore un peu de temps pour voter pour les présélections pour le premier tour. Donc vous pouvez voter Certains les Machos. Allez-y, il y a un petit lien dans la description. Allez-y, dépêchez-vous. Et si vous nous écoutez après, ben, il y a un deuxième tour, il y a les finales où là, vous pouvez voter pour les podcasts présélectionnés. J'espère qu'on est dedans, on va croiser les doigts. On sait jamais. Oblique, t'as aucune chance, sur malentendu, ça peut passer. Comme dirait notre maître à penser. Non, Jean-Claude Duss. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @clac podcast, C-L-A-A-C podcast. Oui, il y a deux A, c'est pour ça que je fais clac. Je devrais faire clac, d'ailleurs, parce qu'il n'y a que deux A. Écoute, que veux-tu? Je veux toujours en faire plus. J'en fais toujours trop.
Moi, ça me va. J'aime bien.
Alors ça me va aussi. Mettez des petits commentaires, des likes et autres. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous.
Bisous.
Ça risque d'être piquant. Non, ça je vais couper.
Ça risque d'être piquant.